Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Lormel Merdridiac. Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va bien, merci.
Nous vous avions reçu précédemment pour une série d'émissions concernant les voisinades. C'était tout lendemain du Covid, en 2020, je crois. Et c'était votre premier lien avec le Diwa. Depuis, vous êtes revenu ?
Je suis restée dans le Diwa et moi je suis arrivée à Die en 2020, juste un peu avant le confinement, voilà, et je vis ici.
Ça a été une expérience plus ou moins agréable quand même dans le Diwa.
Ah oui, moi j'adore ici et c'est magnifique, donc c'est une très belle région.
Et vous êtes ici pour nous parler aussi de rendez-vous que vous proposez dans les semaines à venir, à commencer par le 26 mai. Il s'agit de anti-gymnastique. Ce sont des séances que vous proposerez à Post-Sona entre 9h30 et 18h et 16h30, donc ce 26 mai. D'autres rendez-vous à prévoir par la suite le 3 juin et le 30 juin également. Avant tout, vous êtes comédienne. Comment êtes-vous arrivée de ce statut de comédienne à celui de, comment peut-on dire, d'initiatrice à l'anti-gymnastique ?
Oui, alors on dit praticienne, mais bon,
ce sont praticienne,
des mots,
c'est
peu,
mieux.
Peu importe.
J'ai des lacunes parfois.
C'est pas du tout grave. Alors moi, en effet, j'ai rencontré cette méthode-là parce que je suis comédienne à la base. J'ai fait mes études en Belgique et j'ai rencontré cette méthode au conservatoire de Mons, en Belgique, en training d'acteur. Et moi j'ai fait plein de choses parce que dans ma pratique du théâtre, j'ai fait aussi énormément de danse, j'étais beaucoup dans plein de pratiques somatiques, du Feldenkrais, du Bodyweather, du yoga, enfin énormément de choses, j'ai été un peu piochée partout. Et en fait l'anti-gym, c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément marquée et qui a apporté quelque chose de tout nouveau à mon travail en tant que comédienne. Et donc j'y suis revenue plus tard. Et ça a été tellement un élément déclencheur pour moi dans ma façon de jouer, dans ma façon d'être sur scène, dans la présence, etc. Et dans ma vie personnelle, que j'ai décidé de faire la formation et d'en faire mon métier. Et donc, maintenant, je suis aussi, et surtout d'ailleurs ces dernières années, praticienne d'anti-gymnastique.
Alors, ce terme d'anti-gymnastique, est-ce qu'il illustre vraiment ce qui est proposé ? C'est-à-dire, c'est tout sauf de la gymnastique ou quoi ?
Ça n'est pas du tout de la gymnastique, en effet. C'est une autre façon de bouger. Alors, pourquoi ça s'appelle l'anti-gymnastique ? En fait, c'est un peu lié à un contexte aussi. En fait, ça a été créé dans les années 70 par Thérèse Berthera. Elle a été très, très connue à cette époque-là. Hein. Dans les années 70, 80, 90, elle avait un peu le vent en poupe. On parlait d'elle un peu partout. En fait, Thérèse Berthera, elle était kiné Mézières. Donc, Françoise Mézières, c'est une femme incroyable qui a un peu révolutionné l'anatomie parce qu'elle a découvert la chaîne posturale arrière. Le fait qu'à l'arrière de notre corps, on a tout un réseau musculaire. Donc, ça vient s'attacher dans les yeux. Pouf. Et puis, ça va derrière, le long du dos, les jambes, jusqu'aux orteils. Et en fait, cette chaîne musculaire, elle fonctionne comme un seul muscle. C'est-à-dire que ce sont des muscles qui sont solidaires, qui fonctionnent ensemble. En gros, si vous bougez un orteil, ça peut avoir des échos jusque dans votre nuque. Et donc, Françoise Mézières, elle a découvert l'importance de cette chaîne posturale arrière, puisqu'elle nous permet de nous tenir debout. Donc, c'est quand même très important pour nous, bipèdes. Il n'y en a pas beaucoup des bipèdes, d'ailleurs, sur la planète, mais soit. Et donc, voilà. Le problème de cette chaîne posturale arrière, c'est qu'elle a tendance à se raccourcir pour nous permettre de rester debout, mais qu'elle reste souvent figée dans la même position. Thérèse Berthera, elle était kinémésière. Et donc, en fait, elle a créé dans les années 70 une méthode en se basant vraiment sur cette anatomie-là de la chaîne posturale arrière, avec des tout petits mouvements, très précis, très fins, pour permettre de redonner un meilleur équilibre entre les muscles, permettre à ces muscles de la chaîne posturale arrière de laisser un petit peu de place aux muscles de devant, qui sont aussi très puissants, mais qui ont moins l'occasion de s'exprimer parce que derrière, ça travaille trop fort, et de réguler aussi, même à l'intérieur de cette chaîne posturale arrière, les muscles plus grands qui veulent tout le temps tout faire, et les plus petits qui ont moins l'occasion de s'exprimer. Et donc, c'est des tout petits mouvements, très fins, très précis, qui viennent un peu chercher de l'allongement du mouvement dans les muscles.
Ça, c'est une approche qui vous aide dans votre activité de comédienne, justement, ou de manière peut-être aussi à occuper une scène.
Oui, moi je trouve que c'est très important parce que de toute façon en tant que comédien, notre outil de travail c'est aussi notre corps, notre voix, notre présence. Et c'est vrai que moi c'est ce qui m'avait parlé à l'époque quand j'ai découvert cette méthode, c'est que comme on a une connaissance très précise et très pointue de ces muscles, il y a une précision dans les gestes, dans les mots. En fait en anti-gymnastique on travaille aussi énormément sur la respiration, sur tous les muscles de la mâchoire, la langue, les yeux, le regard. Et donc ça donne aussi quelque chose par rapport au rapport à l'autre, par rapport à la diction, par rapport à tout ça, qui est complètement différent. Et comme cette méthode-là, Thérèse Berthera, ça travaille aussi sur la mémoire musculaire, le fait que nos muscles ils n'ont rien oublié depuis le début de notre vie, ils savent tout de notre histoire, et bien le fait de redonner du mouvement, ça permet aussi de libérer des choses, de libérer des émotions, de libérer des histoires. Et d'ailleurs, c'est utile, je trouve, pour tout le monde, mais en tant que comédienne, c'est ce qui m'avait aussi beaucoup plu, dans le sens où finalement, on doit aller chercher un peu dans sa marmite émotionnelle. Et c'est vrai que quand on la connaît, c'est plus facile d'aller chercher les choses.
Vous-même, actuellement, vous en proposez des séances, que ce soit à Dicré ou Valence. Oui. Comment ça se passe? À quel rythme?
Alors, en général, je propose à Die et à Cré des séances hebdomadaires, donc c'est des séances d'1h30. J'invite vraiment à un voyage où pendant 11 semaines, 11 séances, on travaille sur un thème. Et d'ailleurs, à partir de la troisième ou quatrième séance, je ferme les groupes parce que y a un processus, quoi. Ça s'installe, ça se dépose de plus en plus et on va de plus en plus loin dans la matière. À Valence, je propose plutôt des séances plus longues, plus des stages. Ce printemps, c'est particulier parce que nous avons juste 2 mois et j'avais le choix entre faire une proposition très courte de 5 ou 6 semaines et d'aller quelque part, mais pas très très loin, ou de faire une vraie proposition avec des séances plus longues et où on pouvait vraiment se déposer. Et c'est ce que j'ai préféré faire. C'est pour ça que ce trimestre, en fait, je propose en réalité une séance de 3 heures et une journée par mois, que ce soit à Die, à Cré ou à Valence. Et en fait, les gens peuvent un peu venir partout. Et contrairement à ce que je propose dans les séances hebdomadaires, alors j'invite évidemment, si vous avez la curiosité, de venir à tout ce processus, parce que en effet, il y a un voyage, il y a quelque chose qui s'installe au fur et à mesure des séances. Mais comme ce sont des séances plus longues, c'est possible de les vivre un peu à l'unité, je dirais. Et donc de s'inscrire juste à une séance et pas à l'autre, ou à plusieurs. Enfin, voilà. Il y a une certaine flexibilité ce printemps. Et d'ailleurs, là, ce printemps-ci, on travaille sur ancrer son souffle, donc sur l'ancrage et la respiration, parce que ce sont deux choses qui sont complètement liées, de savoir comment est-ce que, quand on est ancré, présent dans ses appuis, la respiration est beaucoup plus libre de circuler. Voilà.
Cette activité vous a permis quoi, justement, par rapport à votre activité de comédienne?
Alors, moi, en fait, donc j'ai toujours été très intéressée au corps et au mouvement. Donc, en tant que comédienne, comme je le disais, ça apporte une précision dans le geste. Ça apporte un ancrage, une présence, un rapport à l'autre aussi. Le fait qu'on ne regarde plus les choses de la même façon. On travaille aussi énormément sur les yeux et tout ce qu'on fait sur les mémoires aussi corporelles. Ça permet d'ouvrir quelque chose dans l'écoute, dans le regard qui n'est pas pareil. Ça travaille aussi sur tout ce qui est la respiration, justement. Et donc, travail de souffle, travail de diction, dans les muscles vraiment profonds, des muscles qu'on ne vient pas forcément chercher d'habitude, sur la langue, sur la mâchoire. Il faut savoir quand même que la mâchoire, c'est l'endroit où il y a des muscles les plus puissants du corps. On est capable de tracter 80 kilos avec notre mâchoire. Donc on n'utilise pas du tout. Mais donc du coup, ça reste des choses, une zone qui engrange énormément de tensions, des tensions émotionnelles notamment. Et donc du coup, travailler dessus, ça permet aussi de débloquer beaucoup de choses. Et comme tous les muscles sont liés, ben, souvent quand on ouvre quelque part, ça ouvre aussi ailleurs. Hein. Il y a vraiment un lien entre les différentes parties du corps, on n'est pas des petits bouts mis côte à côte. Quoi.
Des techniques qui donc apprennent aussi la respiration. Est-ce que le corps aussi est peut-être là pour aider aussi la mémoire du texte, par exemple?
Je ne sais pas. Je n'ai jamais trop eu de problème de mémoire. Ben, c'est vrai que j'ai fait du théâtre depuis très longtemps. Et finalement, c'est assez rigolo parce qu'en tant que comédien, le texte, c'est un peu comme la partition. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sur scène tant qu'on ne connaît pas son texte. Donc, la première chose à faire quand on a de la matière, on apprend le texte. Parfois, on fait du travail à table, etc., pour bien travailler justement sur le texte, les intentions, etc. Et une fois qu'on a le texte, il faut le digérer. Et c'est ça, tout le travail de l'acteur. C'est-à-dire que ce texte qui a été écrit par quelqu'un d'autre, ou par soi, si ça a été écrit par soi, mais que ce texte, il devienne quelque chose de nous dans le moment présent. Et pour ça, il faut qu'il passe par notre corps, qu'il passe par notre vécu, qu'il passe par nous. Et c'est cette digestion-là du texte qui finalement, je pense que l'anti-gym peut aider aussi, parce que finalement, on l'assimile à l'intérieur de nous pour qu'il devienne quelque chose de nous, et que quand on joue sur une scène, en fait, on ne doit pas se dire « Oh, mais quel bon comédien !» mais qu'on puisse vraiment rentrer dans cette histoire. Et pour rentrer dans cette histoire, l'histoire doit être nous. Donc finalement, le texte, pour moi, la mémoire du texte, elle est là. C'est quelque chose d'un peu mécanique. Enfin, voilà, il y a plein de techniques d'apprentissage de texte. Hein. C'est très bien, par exemple, de lire plein de fois le soir avant de s'endormir. Ça marche très, très bien. Mais une fois qu'on l'a, le texte, c'est là qu'on commence vraiment à travailler en tant que comédien. Et c'est là qu'est le vrai travail, c'est-à-dire comment rendre ces mots siens et devenir vraiment un interprète de cette histoire. Quoi.
Et donc l'apport du corps aussi pour le signifier.
Évidemment, parce que nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains, on a besoin du contact, on a besoin de la vie, hein, on s'en est vraiment bien rendu compte ces dernières années. Et du coup, évidemment, le corps, c'est ce qui est central aussi dans le théâtre, ou même dans tous les arts scéniques d'ailleurs, parce que c'est ce corps de l'artiste qu'on voit sur scène.
Tout à l'heure, vous parliez donc de postures qu'au quotidien, on prendrait et qui finissent par peut-être créer quelques problèmes. Et donc, l'antigymnastique peut être une des solutions pour apaiser, soulager cet aspect-là. Est-ce qu'on peut donner concrètement un exemple de ce qui peut être remédié ?
Alors, je parlais des dents tout à l'heure. C'est vrai que, par exemple, il y a des gens, peut-être qui se reconnaîtront là-dedans. Comme cette mâchoire est très, très serrée, parfois, on serre les dents sans s'en rendre compte. Les dents s'usent, ça fait mal, ça crée des tensions dans les épaules, même jusque dans le bassin. Il y a même des gens qui grincent des dents la nuit, hein, ça s'appelle le bruxisme. Et c'est vrai que cette chose-là, c'est très désagréable. Et donc, travailler sur des petits muscles profonds, ça permet aussi desserrer la mâchoire, ça permet aussi d'avoir un mieux-être. Voilà. On travaille énormément aussi sur les pieds, sur les orteils, donc la conscience du corps, parce que comme je le disais tout à l'heure, on est quand même les seuls animaux terrestres à marcher sur nos deux pieds, des mammifères qui marchent comme ça sur ces deux pieds, c'est assez rare. Et donc on a des pieds avec une architecture très particulière, en forme d'éventail, avec 5 orteils, et des doigts de pied qui sont vraiment pour nous aider à goûter le sol. Et en fait, leur redonner de la présence, de la mobilité à nos pieds, en fait, ça joue sur tout le reste, sur tout le dos. Quoi. Ouais.
Et pour ça, il y a la proposition d'exercice plus ou moins physique.
Alors oui, alors en anti-gymnastique, on parle de mouvement. Pourquoi est-ce qu'on dit mouvement et pas exercice ? Parce que dans la notion d'exercice, il y a quelque chose de répétitif ou de performance. En anti-gymnastique, on cherche ni la répétition ni la performance. On cherche la découverte. Et comment est-ce que bouger de cette façon-là, qu'est-ce que ça me fait à moi, là, maintenant ? Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de... quelqu'un qui a fait 20 ans d'anti-gym peut très bien faire la même séance que quelqu'un qui vient de découvrir. Il n'y a aucun souci à ça parce qu'en fait, c'est une expérience qui est très personnelle. Voilà. Et il n'y a pas de perfection d'un mouvement à atteindre. C'est plutôt découvrir comment ce mouvement va résonner en moi.
Comment se déroule une séance, donc avec, là par exemple, les stages que vous proposez sont à partir de 6 inscriptions, donc il y a un groupe de personnes, est-ce qu'il y a une articulation, un échange aussi entre chaque pour découvrir, se découvrir également?
Alors, oui. Alors, en antigymnastique, c'est aussi une particularité, c'est que je travaille qu'avec des petits groupes. En séance hebdomadaire, pas plus de 6 personnes. Là, comme c'est des séances un peu plus longues, j'ouvre jusqu'à 8, mais c'est vraiment le grand maximum parce que, justement, il y a un travail vraiment de fond avec chacun et que moi, j'ai besoin d'avoir vraiment le regard sur chacun. Et que, voilà, pour que chacun ait sa place et son espace, c'est important qu'on reste en petit groupe. Alors, sur une journée complète ou sur des séances de 3 heures, on fait évidemment une pause. Alors, la pause n'est pas juste pour faire une pause. Elle est aussi là parce que, c'est ce que je disais, parce que j'ai justement donné une séance ce matin. En fait, elle est aussi là pour permettre de revenir dans quelque chose de plus quotidien. Et puis quand on revient vers les mouvements, de se rendre compte de « Ah tiens, qu'est-ce qui s'est déposé? Qu'est-ce qui s'est resté ?» C'est intéressant cette rupture-là. Et évidemment, en séance d'antigymnastique, les mots sont bienvenus. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont bienvenus. C'est-à-dire que très souvent, il y a des questions qui sont posées et les gens sont amenés à partager. Et c'est important aussi de mettre des mots sur ce qu'on vit parce que ça permet de réussir à le nommer, à le dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour chacun parce que d'entendre ce que l'autre vit à côté, ça permet de se dire « Ah oui, tiens, cette personne aussi !» ou « Ah ben, pas du tout, moi tellement pas du tout !» Et du coup, à ce moment-là, on peut aussi échanger sur le vécu de chacun et d'observer comment est-ce que ça peut se ressembler ou pas, justement, en fonction des expériences de chacun.
Ouais. Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
À la suite de cette séance, est-ce que la personne, le stagiaire, est invité ensuite chez elle à pratiquer ces mouvements?
Alors,
il faut nécessiter d'un regard peut-être pour guider?
Alors, pas forcément. En fait, par exemple, pour. On travaille sur le système nerveux végétatif quand on fait ce type de mouvement-là. C'est-à-dire qu'on permet au cerveau de faire d'autres connexions neuronales pour avoir un autre fonctionnement. Et on dit que le système nerveux végétatif, il a besoin d'environ 7 jours pour intégrer les nouvelles propositions. Donc, c'est en ça aussi que je disais qu'on parle de mouvement et pas d'exercice, c'est-à-dire que la répétition n'est pas nécessaire. On vient de proposer quelque chose au corps, il faut laisser le temps au corps d'intégrer et de garder ce qu'il a envie de garder. Parce que peut-être que le corps ne va pas tout garder, et ça aussi, c'est OK. Par contre, ça ne veut pas dire que s'il y a des mouvements qui ont plu, qui ont fait du bien, on ne peut pas les refaire à la maison. On peut, mais ça n'est pas du tout obligé. Il y a quelque chose qui se dépose.
Au-delà de la Drôme, vous proposez aussi des stages en Bretagne. Alors ça s'adresse, et c'est plutôt en saison d'été?
Oui. Bah, écoutez, ça c'est vraiment parce que moi je suis originaire de là-bas et du coup, en effet, parfois je reviens en Bretagne. Alors j'en profite pour donner des stages. Et là, pour le coup, c'est des stages d'un ou deux jours en général quand je retourne là-bas.
Voilà, c'est pour les DIWA qui répondent des vacances en Bretagne.
Mais il y a d'autres praticiens en Bretagne qui sont là plus régulièrement aussi. On est quand même pas mal de praticiens en France et c'est possible de trouver d'autres personnes en fonction des régions. Ouais.
En fonction de tous ces comment on appelle ça, de ces pratiques d'anti-gymnastique ou d'autres techniques, est-ce que vous avez dû en pratiquer certaines? Pour vous, celle-ci, c'est celle qui vous correspond le mieux?
Oui. Oui, vraiment. Bah, moi, j'ai pratiqué énormément de choses. Après, je suis toujours curieuse et j'adore, moi, tout ce qui est somatique, j'adore vraiment découvrir des nouvelles pratiques. Et c'est très riche. Et d'ailleurs, je trouve que c'est important de continuer à rester curieuse, à s'intéresser à d'autres choses, à faire des ponts. D'ailleurs, en règle générale, les pratiques somatiques qui sont dans un rapport juste au corps, en fait, elles se complètent. Hein. Il y a vraiment du lien entre les différentes pratiques. Mais c'est vrai que moi, je me suis vraiment trouvée dans l'anti-gymnastique parce qu'il y a a tout ce côté-là qui m'a vraiment plu. Il y a un rythme qui est très différent aussi. Il y a une lenteur, il y a quelque chose... parce que comme on vient parler au système nerveux, on n'est pas dans le même rythme. Il y a quelque chose aussi dans un rapport du coup au temps qui n'est pas le même. On est vraiment dans le présent, dans le concret... et dans une autre façon de bouger que j'aime beaucoup. Et qui, en fait, moi, je considère vraiment l'anti-gymnastique comme quelque chose qui pourrait être le point de départ d'autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait de l'anti-gymnastique qu'on ne peut pas, après, faire du rugby ou du football. Ou, au contraire, ça peut être un bon accompagnement pour après faire autre chose. D'ailleurs, une de mes formatrices, elle avait donné des séances d'anti-gymnastique à l'équipe de France de rugby. Donc, ça n'est absolument pas incompatible. Le mot, parce que vous m'aviez posé la question tout à l'heure, le mot anti-gymnastique, il vient d'un contexte, c'est-à-dire que Thérèse Berterat, son mari, c'était le fondateur de l'antipsychiatrie dans les années 70. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'en France, on a considéré la psychiatrie comme autre chose que juste médicamenter les gens et qu'on a commencé à voir vraiment la personne dans son entièreté, dans sa globalité. Et donc elle était dans le somatique, dans le corps, et c'était une époque où on était un peu dans la performance physique et en fait, elle a voulu aussi... Bon, il y a plein d'autres raisons pourquoi ça s'appelle anti-gymnastique, mais c'est une des raisons, ce truc de se dire « ce n'est pas juste du mouvement gymnique performatif ». Et en même temps, on travaille sur les muscles, en même temps, il y a quelque chose qui bouge, et voilà.
Cette proposition s'adresse à tous les âges ?
Oui, complètement.
À partir de quel âge ?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'âge, parce que figurez-vous que cette année, j'ai eu la chance même de donner des séances à une petite fille de 9 ans, et elle est venue en groupe avec des adultes, et elle a adoré. Donc, je pense vraiment que, bon, c'est plutôt pour les adultes, quand même, dans un premier temps, mais je pense que même les enfants, ça pourrait être très intéressant pour eux, voilà. Mais bon, là, par exemple, pour les stages, c'est vraiment pour les adultes.
C'est bien de le préciser. Comédienne diplômée du Conservatoire Royal de Mons en Belgique, qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier dans cette formation ? Je suppose qu'il y a le texte, évidemment, mais il y a aussi le mouvement, le déplacement, la présence aussi qui se travaille sur le théâtre. Et donc, ça nécessite parfois des approches du corps, un travail d'étude de son propre corps aussi pour mieux le représenter.
Oui, bien sûr. Alors... le Conservatoire Royal de Mons, donc c'est en Belgique, c'est une formation sur 4 années, et c'est une formation à temps plein, c'est-à-dire qu'on commence à 9h le matin et on ne sait pas quand on termine. Bon, souvent vers 19-20h, ça dépend des projets. En général, le matin, on a des cours de base. Alors, comme ils ont signé le traité de Bologne et qu'on a des masters et tout ça, on a aussi des cours théoriques, et c'est très bien, parce que ça nous permet... Mais on a aussi des cours de phonétique dans les cours théoriques, on a des cours d'histoire du théâtre, on a des cours... là, maintenant, je pense que depuis, parce que moi, j'ai fini un petit moment, ils ont aussi des cours pour apprendre à faire des dossiers, parce que bah, voilà, on le sait, quand après on travaille dans ce milieu-là, il faut savoir faire des dossiers. Là, ils ont des cours pour ça. Et on a aussi des cours de formation de base, qui sont des cours justement de training d'acteurs sur la voix, sur le corps, sur l'acrobatie, sur le mouvement, sur voilà, ce qui peut être un peu le solfège d'un comédien. Et l'après-midi, au Conservatoire de Mons, en tout cas, on travaille toujours à... alors, bon, il y a plusieurs écoles. Moi, à l'époque, mais c'était il y a longtemps, moi, j'ai fini en 2010. à l'époque, du coup, j'ai travaillé donc avec, sur une méthode un peu particulière qui travaillait vraiment sur le rapport au corps, à l'espace, à la balle. Donc, pendant une année, on a vraiment approfondi là-dessus. Et donc, ça, c'était tous les après-midi. Mais bon, l'après-midi commençait à 13h et se terminait quand ça se terminait. La deuxième année, on avait donc par 3 mois, on avait un projet avec le metteur en scène qui a un peu créé cette méthode. On avait un projet marionnette et on avait un projet écriture. Et donc ça dépendait de qui venait écrire. Il y en a qui ont fait des écritures de scénario, il y en a qui ont fait des écritures. Ça dépend. Voilà. Et puis on avait, à partir de la troisième année, on avait des projets avec des metteurs en scène, des chorégraphes, des performeurs différents. Et donc tous les 3 mois, on travaillait avec quelqu'un de différent. Toujours en lien quand même avec le théâtre, mais bon, on a tous dans cette école-là fait un projet danse, un projet chant, justement pour apprendre un petit peu ces choses-là. Ouais.
Au-delà de ces ateliers d'anti-gymnastique, est-ce que vous seriez amené peut-être à proposer d'autres initiations, d'autres stages, notamment autour du comédien, de la comédienne ?
Bien, oui, moi, c'est quelque chose qui peut me plaire. En fait, j'aimerais bien faire... je crois que j'adore ces deux pratiques et que j'aimerais bien pouvoir faire plus de ponts. Et donc, le projet, je pense, là, c'est un petit peu aussi de voir comment proposer cette méthode-là dans des écoles. Récemment, j'étais en Belgique, j'ai rencontré aussi des gens dans les écoles de Belgique et puis en France aussi. Moi, je travaille aussi avec Trajet Spectacle un petit peu. J'ai recommencé, là, cette année, je donne des ateliers théâtre pour les petits, les 4-6 ans. Et c'est assez réjouissant parce que c'est un âge fabuleux pour justement découvrir le théâtre. Et à cet âge-là, au niveau de la conscience du corps, ils sont très forts. Ce sont des maîtres.
Il y a aussi la possibilité de vous contacter comment ?
Eh bien, alors via le site antigymnastique.com, si vous allez dans où trouver un praticien, vous cherchez Androme et en fait c'est moi. Donc vous pouvez me trouver et par téléphone aussi. Donc je peux vous le donner sur l'antenne peut-être, oui. Alors 07 58 86 16 07 ou mon mail. Donc c'est mon prénom Lormel LORME2LEAG comme anti-gymnastique, @protonmail.com. Voilà.
Est-ce que parfois, dans ces séances, la musique est présente pour peut-être rythmer un peu l'instant ?
Non, il n'y a pas de musique. Et c'est vrai que par contre, par rapport au son, vous faites bien de le dire, je ne l'ai pas précisé, ce sont des mouvements qui sont guidés par la voix. C'est-à-dire que moi, je ne montre pas les mouvements, je les décris. Et donc, la personne entend cette voix et suit les propositions, qui restent toujours que des propositions. Mais non, il n'y a pas de musique, à part la musique intérieure de soi-même.
Ça, c'est très difficile à trouver, musique intérieure.
Oh non, je pense que ça se trouve assez bien, à partir du moment où on arrive à avoir le cadre autour qui permet de pouvoir avoir accès à soi, ça se met assez bien.
Peut-être une envie d'entendre un morceau de musique pour clore cette émission
Vous me prenez de court. I'm feeling good de Nina Simone.
En tout cas, c'est chanté par elle, c'est sûr.
C'est surtout I'm feeling good, c'est sûr. Tout d'un coup, Nina Simone, j'ai un doute.
Est-ce que le Diwa inspire aussi pour plus tard ? Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui s'ouvrent à vous, que vous avez envie d'explorer et qui sont permises peut-être dans le Diwa, dans cette nature ?
Eh bien oui, parce que moi je trouve que ce que j'ai vraiment pu savourer en vivant ici, c'est d'être beaucoup plus proche des saisons, de la nature, du rythme naturel du corps. Et ça fait beaucoup de bien. Et du coup, c'est vrai que a émergé depuis cette année un nouveau projet. C'est un projet d'un podcast, donc peut-être je reviendrai une fois pour en parler ici. Mais pas que, on va aussi le faire en performance avec une musicienne qui s'appelle Thaïs Montanari, qui est aussi sur D. Et en fait, c'est donc des textes que moi j'ai écrits, qui sont inspirés un peu librement de la mythologie, de la philosophie et même de certaines découvertes scientifiques. Ce sont des textes autour de cette notion de ce que moi j'appelle le corps planète. Cette idée finalement que la Terre est un peu comme un corps vivant. Et cette idée que aussi nous-mêmes, nous sommes un peu comme une petite planète avec tous ces paysages intérieurs. Et donc l'idée de ce projet, c'est vraiment d'écrire une fable autour de ces récits ou ces découvertes scientifiques, etc. Et ensuite, à un autre moment, une autre plage, si c'est un podcast, de proposer un mouvement somatique en lien avec l'histoire qui a été dite avant. Et avec Thaïs, là, on est en train de travailler justement sur les premières fables que j'ai écrites pour trouver comment habiller avec un univers sonore autour. Et l'envie qu'on aurait après, c'est peut-être aussi, pas seulement le faire en podcast, mais aussi le faire en vrai, parce qu'on aime bien rencontrer les gens en vrai aussi. Voilà.
C'était envisagé à peut-être découvrir ce spectacle dans le Diwa ou alors...
Oui, l'idée ce serait de faire ça par ici. Alors après, on est encore au balbutiement, mais on est en recherche aussi d'endroits, de lieux pour pouvoir le faire.
Voilà. Eh bien, peut-être l'occasion de vous rencontrer de nouveau. Et en tout cas, je vous remercie, Lormel Merdrignac, d'être venu sur RDIWA pour nous présenter donc ces stages d'anti-gymnastique que vous proposez à partir du 26 mai à la pause Sana Hadi.
Merci beaucoup, Yves.
Et bonne fin de soirée.
Bonne fin de soirée.
Au revoir. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.